bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast irrégulier, irrévérencieux, iconoclaste, indispensable peut-être. En tout cas, c'est sur la pop culture en particulier et en général. Et en ce moment, on parle d'Avignon et du théâtre du off pour être plus précis. Parce que nous, on est des rebelles et on n'a pas assez de fric pour aller dans le in. Et quand je dis on, c'est moi et ma maman qui est avec moi à Avignon. Bonjour maman.
Bonjour ma chérie, bonjour tout le monde.
Enfin, je dis bonjour, il est 1h30 du matin. Non, il est minuit 38, pardon. Alors, nous venons de terminer notre deuxième journée du festival, qui est techniquement pas encore la journée du festival, parce qu'en fait, le festival, il commence demain. Mais bon, nous sommes des rebelles, et surtout, tu t'es plantée dans les billets de train. Du coup, on part samedi, le deuxième jour du festival. Donc nous, on en profite, on va voir toutes les générales, qui sont généralement gratos. Et aujourd'hui, on a vu 5 spectacles, enfin... si on peut dire, parce qu'on les a pas tous vus en entier, on va vous expliquer. Donc logiquement, vous devez avoir écouté déjà le premier podcast qui racontait notre première journée, mais qui parlait surtout de bouffe, hein, soyons clairs.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il parlait de ce qu'on allait voir aujourd'hui, et le premier spectacle a été annulé. Donc
oui, c'est vrai. Puis il y en a un autre qu'on a annulé aussi. On a Topic aussi, on devait le voir, et on a changé d'avis. Mais oui, parce que quand il y a des gens que tu croises dans la rue et qui te proposent d'aller voir des trucs, des fois tu vas voir des trucs, et des fois t'as tort, et t'aurais peut-être dû rester. Puis des fois t'aurais dû abandonner le truc que t'étais censé voir pour aller voir les trucs qu'on t'avait proposé. Mais bon, c'est une longue histoire. Donc en tout cas, ce matin, nous sommes arrivés fringantes. Mais non, en fait, je suis partie papoter avec ma copine du Hungry Donkey qui est fan de Buffy, dont j'ai déjà parlé, Tiffen, pour boire un café tout en lisant le super bouquin que tu m'as offert qui s'appelle Funny Girl de Nick Hornby, dont je reparlerai plus tard et qui en fait est la parfaite lecture pour ce festival parce qu'il y a plein de thématiques communes. Et donc tu es arrivée pour m'annoncer que le général auquel nous devions assister à 11h du matin,
ma comédie française
avait été annulée. Donc une générale, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est une représentation avant la première qui est un peu la dernière grosse répétition, mais en costume dans les conditions du direct, comme qui dirait. Et du coup, on invite tout un tas de gens, généralement la famille, les amis, les techniciens, ce genre de choses, enfin les familles, amis, techniciens. C'est plus ou moins prisé, mais techniquement la règle est que quoi qu'il arrive, jusqu'à une heure, une demi-heure avant la représentation, la metteur en scène peut décider d'annuler le public, de dire on a besoin de faire ça
entre nous.
Par exemple, moi une fois j'ai assisté à la générale d'un ballet à l'Opéra de Paris et j'en ai parlé donc à Garnier, j'en ai parlé à une copine chanteuse d'opéra qui m'a dit comment t'as réussi à avoir un billet pour une générale de Garnier. Donc une générale de Garnier, c'est un truc ultra
prisé,
sachant que moi j'étais au troisième.
Je mange en même temps, excusez-moi.
Oui, mais nos auditeurs sont habitués, nos poditeurs sont habitués. Ça m'arrive souvent de manger pendant que je parle. Et en fait, d'ailleurs, c'était très drôle parce que j'avais découvert, on était au troisième balcon, au deuxième balcon, et en fait, j'avais découvert que dans le parterre où il y avait les journalistes, eux, ils avaient accès à un buffet pendant l'entracte. Et là, j'étais là, en fait, il y a un vrai filon. Il faut être journaliste de musique classique. Donc, toujours est-il qu'on est allé, donc la générale a été annulée. Ils nous ont du coup invité à une autre générale. Alors, tu sais, ça avait l'impression, on va vous donner accès à une autre générale. En fait, non, c'était un truc qui était libre d'accès.
Donc, c'était vraiment au courant, donc c'était bien.
Oui, c'est sûr. Mais après, c'est rigolo parce qu'il y avait des gens qui faisaient la queue. On a demandé on faisait la queue. Et là, où faire la queue, ils nous ont dit ah non, mais ils ont spontanément décidé de faire la queue, mais c'est une entrée libre, donc vous pouvez attendre où vous voulez. Ça m'a fait beaucoup rire. Et donc, c'était un spectacle qui s'appelait La vie de Monsieur Molière, qui est tiré. Le roman, pardon. J'ai aucune note, il est tard. En plus, vous avez remarqué, ma mère m'a refilé sa crève. À un moment, je vais éternuer, vous allez vous en rendre compte. Donc, le roman de Monsieur Molière, tiré d'un livre. C'est un livre ou une pièce, tu crois?
C'est un livre. Je ne crois pas, je l'ai lu. Donc je suis...
C'est un livre de Bulgakov qui est...
Mikhail
Bulgakov. Bulgakov, je crois. ça te fait rire, du coup, tu tousses. Écrivain russe du 19e, 18e peut-être. Non, 19e. On va regarder sur Wikipédia un jour et je foutrai la réponse. En tout cas, Bulgakov, dont le roman le plus célèbre, enfin, que moi que je connais, c'est Oblomov, qui est un roman très beau mais très déprimant. Et... Ben, vous allez le deviner, c'était sur la vie de Molière. Donc alors voilà, c'était trois hommes en scène, deux comédiens, un principal, un secondaire et un pianiste. Et donc voilà, maman, toi t'as pensé... Alors je tiens à dire que ma mère m'a élevée à Molière depuis mon plus jeune âge. Molière, c'est avant Marianne Sergent, pour te donner envie d'être comédienne, celui qui t'a fait aimer le théâtre, c'était Molière.
Oui.
Il me semble me rappeler que quand t'avais eu 7-8 ans, tu montais des pièces de Molière pour tes grands-parents.
Non. Non, à 8 ans, j'ai écrit ma première pièce de théâtre, ça c'est autre chose. Mais à 9 ans, on m'a offert tous les tomes des pièces de Molière. Donc j'ai commencé à lire ça dans ma chambre, à déclamer en imaginant que j'étais sur la scène de la Comédie Française.
Donc, ouais, j'étais... Et c'était quoi ta pièce préférée de Molière?
Je pense qu'à l'époque, c'était Les Précieuses Ridicules.
C'est bizarre, moi j'ai toujours eu du mal. Alors moi, c'est vraiment le dépit amoureux. Hein. C'est vraiment. Je crois que c'est le dépit amoureux, à chaque fois je me trompe, mais c'est celui avec Ascagne. C'est celui, bien sûr, où il y a une femme qui se déguise en homme et qui n'est pas aimée par l'homme qu'elle aime. C'est classique. C'est moi, tous les trucs que j'adore, c'est toujours. Il y a toujours du déguisement et il y a toujours. C'est toujours une amoureuse éconduite. Alors du coup, toi, t'as pensé quoi de ce spectacle?
Alors moi, j'ai bien aimé. Déjà, la bonne chose, c'est qu'on connaissait cette salle et on savait quel était le piège, à savoir ne jamais monter en haut de la salle où on n'entend absolument rien.
Donc... Oui, ça fait partie de ces salles avignonnaises qui sont des anciennes chapelles et c'est un piège. Sachant que des fois, quand t'es devant, tu risques de te faire gueuler dessus parce que les acteurs savent qu'on les entend mal et donc ils ont tendance, certains, à crier.
Là, non.
Oui, non, c'était très bien.
Donc on entendait tout, on comprenait tout, ça c'était déjà une bonne chose parce que c'est pas le cas dans toutes les pièces. Et moi j'ai trouvé que le comédien qui faisait le récit, qui racontait sa vie, la vie de Molière, je l'ai trouvé très très bien. Mais je suis d'accord, un peu maniéré, un peu théâtreux et tout.
T'es en train de spoiler mes futures critiques, mais oui.
Mais malgré tout, je veux dire...
Non, il était très juste.
Il était juste tout le temps, il était... Il occupait parfaitement la scène. Non, moi j'ai bien aimé. Le deuxième aussi, j'ai trouvé très très bien aussi. Il changeait de rôle. Il faisait le père de Molière, la fiancée de Molière. Enfin, il faisait tout le monde. Non, j'ai trouvé ça très bien, très intéressant. Bon. Et moi je connais. Enfin, je pourrais pas écrire un livre sur Molière, mais presque. Enfin, si, je pourrais peut-être. Tellement je connais bien la vie de Molière, donc j'ai rien appris, mais. J'ai tout bien suivi. Bon, le seul truc qui m'a un peu étonnée, c'est quand il a dit « c'est la fronde » et Louis XIV...
Prépare son règne alors qu'il a 5 ans.
Alors qu'il a 5 ans, donc là j'ai dit « là, il y a un petit problème quand même ». Mais bon.
Alors moi, je trouvais ça très bien à plein de points de vue. C'est un spectacle bien mené. Je trouve ça dommage. Alors il y a plein de trucs que je trouve dommage. Donc enfin c'est vraiment bien, ça vaut le coup de le voir. Ça vaut le coup de s'intéresser à la pièce de la vie de Molière, c'est ça donne envie de lire le livre et enfin pour le coup ça m'a surtout fait beaucoup réfléchir à quel point tous les problèmes que je me pose dans mon rapport aux critiques, dans mon rapport à la relation entre culture et art, enfin l'art respecté, la culture populaire, le rapport, je te dis, à la critique, au contenu et le contenant, comment la forme, est-ce que c'est que d'écrire sur le monde et comment on peut parler du monde et tout. Enfin, en fait, j'ai halluciné parce que tout ce qu'il a vécu, Molière, c'est exactement des choses dont je parle, auxquelles je réfléchis, les trucs sur lesquels je lis, que ce soit le rapport justement, c'est le livre Funny Girl. Qui parle de la création d'une série comique dans les années 60 en Angleterre à la télévision. Je viens de lire un chapitre où il y a un débat télévisé sur est-ce que c'est défendable de faire de la comédie, et quelque part c'est exactement un truc qui est une vraie question par rapport à Molière, sachant que lui-même, plus il met du fond politique et personnel comme dans Tartuffe ou Misanthrope, plus ça lui crée des problèmes. Ou techniquement la comédie, c'est ce qui était safe. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui m'ont fait réfléchir, m'ont donné envie de relire et tout. Alors donc les problèmes que j'ai, c'est que effectivement il y a un maniérisme théâtral qui fait que je trouve que ça aurait pu bénéficier d'un plus grand réalisme de jeu, de quelque chose de plus où t'as moins l'impression d'être au théâtre tout le temps. Et du coup, ça aurait pu du coup nous toucher encore plus, je pense. C'est pareil. Et le texte joue là aussi, parce que le texte est un peu trop écrit à mon goût. Ça ne me dérange pas qu'il le soit de temps en temps, mais il l'est trop souvent. Et il est trop souvent pour des choses aussi simples que de la description, par exemple. Et oui. Du coup, ça nous sort, ça nous fait... Du coup, on est tout le temps dans du
récit.
Dans du récit, mais on est tout le temps dans de l'artifice. Et je trouve qu'il y a tellement de choses réelles, fortes, que c'est dommage. Après, il y a des moments où c'est très, où ça l'est moins et c'est très touchant, notamment sur vers la fin de sa vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des extraits de pièces et des extraits de textes. Et les extraits de pièces, notamment, je les trouve pas très pertinents. Je trouve qu'on comprend pas toujours de quoi il s'agit, ça manque de contexte, on comprend pas vraiment les liens. Voilà. Donc je trouve qu'il y avait un problème dans le choix des passages qui sont là pour souligner. Donc c'est à des moments où ces pièces ont été créées, mais elles sont aussi là pour souligner ce qui se passe dans la vie de Molière. Et je trouve que c'est pas complètement pertinent. Et surtout, c'est pas, il y a peu de moments très connus, il y a peu de moments. Du coup, parce qu'il y a un côté quand même. Il y a un peu un côté best-of, quoi. T'as envie de la compilation best-of Molière. Et je trouve que du coup, on est un peu sur sa fin là-dessus.
Alors moi, en fait, moi, pourquoi je dis que j'ai bien aimé, c'est que, comme j'ai expliqué avant, je connais parfaitement la vie de Molière et je me suis pas ennuyée.
Oui, non,
donc,
c'est sûr.
Donc ça prouve que c'était quand même.
Oui, bien sûr. Par contre, il y avait un peu un sous-texte après le truc d'hier où on avait envie d'étrangler le mec. Molière, qui passe sa vie à vivre avec Madeleine Béjart et au moment, après l'occasion, il épouse sa fille.
Mais il y a une morale, il est malheureux.
Oui, il est malheureux. Quelque part, ça me fait plaisir, c'est terrible. Et t'es là, putain, mais en fait, le sous-titre de ce festival, ça va être Les mecs sont insupportables. Je me suis posé la question et ensuite, le spectacle d'après, elle me l'a confirmé. Donc voilà. Donc en gros, c'est un beau spectacle, c'est de bons comédiens, mais comme souvent, j'aurais voulu que ce soit encore mieux. Donc ça, c'était Molière. Ensuite, on a mangé?
Ouais.
Oui, ensuite, on allait manger, pour changer.
Au coude à coude.
Au coude à coude. Et
Rue
rue
Sarraillerie.
Sarraillerie. Rue de la Sarraillerie, c'est ça? Hyper bon, mais genre hyper bon. Je suis un peu toujours frustrée parce qu'on n'a pas commandé. T'as commandé les trois desserts et t'en as annulé deux. Et du coup, j'ai pas eu les desserts que je voulais. Notamment, il y avait un pot malgache qui avait l'air très sympa, avec du rhum et du machin.
Le spectacle était en retard, non, donc on avait.
Oui, en plus, le spectacle était hyper en retard. Bon, enfin, tout ça pour dire que c'était bien dommage. Mais bon, on a quand même bien bouffé. On mettra l'adresse quelque part. Et on est allé voir Un couple presque parfait. Alors, tu sais pourquoi tu l'avais choisi, ce spectacle?
Bah, le titre m'avait bien plu.
Et t'avais regardé des trucs gratos, le 6, quoi.
Voilà.
Alors, c'est curieux, on a vu quelque chose de très similaire l'année dernière, qui est un couple qui s'engueule. Enfin, pour le coup, l'année dernière, ils s'engueulaient vraiment, mais là, c'est un couple qui est ensemble dans la vie et qui joue des scènes de couple célèbres de la littérature, enfin, surtout du théâtre, mais pas uniquement. Et en gros, là, le truc, c'est qu'ils remontent le XXe siècle, donc ils commencent de nos jours et finissent avec du Feydeau. Donc, font un petit virage dans le 19e. Et en gros, il se passe un truc entre le couple pendant les scènes. Et du coup, l'année dernière, on a vu un truc similaire où, pour le coup, c'était plein de scènes. Il y avait du Feydeau, du Molière, il y avait des choses un peu plus classiques. Et c'était très bien aussi l'année dernière, ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, je crois que j'ai retrouvé l'article que j'avais écrit qui n'avait pas été publié, que je vais peut-être publier parce que c'était vraiment très sympathique ces gens-là. Et s'ils sont jamais par chez vous, ça vaut le coup d'aller les voir. Et donc, cette année, donc, Un couple presque parfait. Alors, le premier truc, c'est que la comédienne
est extraordinaire.
Elle est extraordinaire. Je retrouve son nom, elle s'appelle Mathilde. Elle a un truc. Ah bah tiens, j'ai son nom sous les yeux. Parce que c'est l'autre spectacle dans lequel elle est. Donc elle s'appelle Mathilde Bourbin, BIN à la fin. Cette fille, je ne sais, enfin, elle va avoir une carrière fantastique, c'est évident, parce elle est très belle en plus, mais elle a un charisme, elle a une justesse de ton, elle a une variété de capacités de rôle à jouer, c'est incroyable. Donc c'est sûr et certain, et apparemment quelqu'un avait écrit sur je ne sais plus quelle critique, ah, oh, je la suis depuis des années, c'est l'étoile montante du théâtre. Je pense que c'est vrai. Mathilde Bourbin, notez son nom.
Alors, moi, je dois dire un truc, c'est que, bon, vous avez peut-être pas vu, mais quand je l'ai vue sur scène, elle m'a fait penser à une autre actrice que j'aimais bien et que j'ai vue dans une pièce de Guitry, enfin sur la vie de Guitry. Donc, c'est avec Martin Lamotte et elle, c'est Claire Kame, que j'aimais bien en général. Mais là, quand je l'ai vue chanter, danser, jouer, j'ai été époustouflée. Et bien là, Mathilde m'a fait penser à elle, j'ai eu la même impression. Franchement, je l'adore. Si j'étais un mec, je tomberais amoureux immédiatement.
Mais Claire Kame, c'est pas la fille avec les cheveux bouclés qui était dans Les yeux d'Hélène, genre la deuxième saison des yeux d'Hélène quand elle avait 18 ans, et
Oui,
j'étais
c'est ce genre-là.
complètement obsédée par cette meuf.
Et donc, je l'ai vu au théâtre l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus.
Non, parce que c'est ça, hein, moi
Non,
j'étais.
oui, non, non, mais je l'aimais bien. Mais quand je l'ai vue là, waouh!
D'accord, bon bah Claire quand même aussi assure. Et du coup, donc alors t'as pensé quoi toi d'un couple presque parfait au-delà
de... Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le comédien qui s'appelle... comment il s'appelle ?
Il s'appelle David. Et je ne sais plus son nom de famille parce que voilà, on est nuls. Mais en tout cas, il s'appelle David et c'est lui qui a produit le spectacle. Et justement, il a dit, on l'a croisé après, il a dit, oh bah de toute façon, comme d'habitude, tout le monde va être dithyrambique sur Mathilde ici étant.
Bon déjà, en dehors d'être un excellent acteur, très drôle, très amusant, avec beaucoup d'esprit. Bon, en plus, il a trouvé Mathilde apparemment, donc déjà.
Ouais, voilà. Et puis il est très.
Non, mais il est très très bien aussi. Mais c'est à dire que elle est tellement un cran au-dessus de tout le monde.
Oui, c'est ça. C'est à dire que elle est tellement bonne que des fois on a l'impression qu'il serait presque moins bon. Mais c'est en fait non, il est excellent. Elle est juste meilleure.
Ouais. Et moi, normalement, j'ai vraiment la dent dure avec les comédiennes parce que il y a très souvent, malheureusement, des comédiennes qui ne savent pas placer leur voix quand la voix qui monte dans les aigus ou qui hurle.
Moi, je pense que c'est la faute des metteurs en scène et des...
C'est possible, mais bon.
Et des coachs, mais bon. C'est... Enfin, tu penses juste que c'est pas possible que, comme par hasard, la plupart des comédiennes ont des problèmes, alors que...
C'est-à-dire qu'en même temps, les comédiennes ont souvent des voix plus aiguës, et si on leur apprend... Et il y en a beaucoup qui on n'apprend pas à placer leur voix, et c'est infernal. Mais là, oh waouh, c'est un bonheur.
Surtout, elle est juste... Tu sais, c'est dans des petits mots, des petites expressions, ou des petits sourires, où tout d'un coup, t'as l'impression de voir quelqu'un de charmant tout le temps, c'est incroyable. Mmh, mmh. Et donc voilà, et donc il y avait plein de textes.
En plus, elle chante à ravir aussi.
Oui, elle chante vraiment bien. Et il y avait plein de textes très sympas, plein de textes.
Tardieu, Jean-Michel Ribes.
Voilà, c'est ça, Tardieu, Jean-Michel Ribes, tout un tas de gens que je connais pas. Il y avait un extrait de La Crise de Colin Serrault, qui est une de mes scènes préférées de tous les temps, où t'as le mec qui débarque chez Anana en pensant que son rêve le plus fou, c'est qu'il s'installe chez elle. Alors qu'elle est là, non mais en fait je t'explique, et je me rappellerai toute ma vie, maman, t'es en train de ma mère est en train de beurrer une tartine au-dessus du micro, ça fait un boucan pas possible. Toujours est-il qu'elle dit cette phrase qui m'a marquée à vie quand j'ai vu le film il y a bien longtemps, qui est « je veux pouvoir péter dans mes draps sans avoir à me poser la question ». Et ça m'a toujours marquée comme étant le truc tellement pas dans le cliché de la féminité. Et alors par contre dans ce spectacle aussi, hein, l'acteur est en train, donc l'acteur qui joue, enfin l'acteur, pas le vrai comédien, mais celui qu'il joue, est en train d'essayer de la quitter parce qu'il est déjà en train d'en épouser une autre. Enfin, il est sur le point d'en épouser une autre. Et donc, une fois de plus, un homme lâche et désagréable, et je suis là. Où sont les pièces avec des mecs sympas qui ne sont pas imbus d'eux-mêmes ? Ce serait sympa. Bon, enfin bon.
Dans un autre monde.
Voilà, oui. Non, mais non ! Faut les créer dans la fiction pour qu'ils existent dans la réalité. Il y en a plein qui existent, faut juste que voilà, que ça devienne un modèle un peu plus courant, j'aimerais bien. Et donc on a mais voilà, il y a plein de choses sympas dans ce spectacle, ça vaut vraiment le coup de le voir, c'est un très bon moment. En plus, il y avait eu un problème, toute leur lumière avait disparu 10 minutes avant le spectacle, ils ont dû inventer un éclairage en 3 minutes, enfin c'était assez épique, mais c'est vraiment charmant. Et donc ensuite nous sommes allés
manger une glace.
Ah oui, c'est ça. Pour changer, on allait bouffer une glace dans un endroit hyper sympa qui s'appelle La Princière, rue des avenues Place des Corsins. Et c'était super bon. Et ensuite, on a décidé d'aller voir le médecin malgré lui, parce que bien sûr, ce matin, il nous avait donné envie avec Molière. Et en plus, il me semble qu'ils en avaient parlé. Je sais pas, c'est le même médecin malgré lui, parce que des fois, il y en a plusieurs. En tout cas, elle nous avait parlé du médecin malgré lui, et donc on croise le mec avec son tract qui nous dit c'est gratuit aujourd'hui. Et attention, c'est une réinvention, c'est le médecin malgré lui à Los Angeles en 1900.
90.
Ah oui, pardon, juste en 1900. c'est pas la même chose. Los Angeles en 1900, il n'y avait personne, c'est le Far West, il n'y a pas de ville. Ça aurait été une autre ambiance. Et donc on se retrouve à aller là, je vous passe les détails de on va chez Tom Tom et Nana comme hier et on découvre que leur thé à la menthe aujourd'hui est hyper amer et moins bon, mais c'est pas grave, ils sont quand même hyper sympas et pas frais, mais du coup ils nous ont donné un verre gratos parce que c'était frais, mais bon, il était toujours aussi amer. Donc on se retrouve à aller là, et alors là, comment vous dire, maman, décris le médecin malgré lui.
Bah, déjà dit, ça se passe à Los Angeles en 1990. Moi, je vois le décor, je le dis à Yael. En fait, ils sont sous le périph' d'Aubervilliers. On ne voit pas trop la différence. Ils n'exploitent pas du tout le fait qu'ils sont soi-disant à Los Angeles en 1990. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Donc, si, alors ils ont Ah, comment ça s'appelle? Ils ont deux Mexicains ou deux...
Ouais, un mec et une... Bah, la nourrice et le valet sont mexicains.
Ouais, alors donc, ils parlent avec un accent.
On comprend rien.
On comprend pas ce qu'ils disent, donc déjà, c'est très intéressant.
En fait, on se faisait vraiment chier très très vite. Et moi, j'ai voulu insister un peu.
Un peu.
Bah, tu m'as dit, on y va, je t'ai dit, mais non, on va attendre. Et en plus, il y avait un vrai problème de clim, on a commencé à avoir chaud. Et en fait, j'en suis arrivée à un point où j'ai dérangé mon voisin. Ma mère continue à tousser, je suis désolée, mais je suis surtout désolée pour elle, toi, maman. J'ai dérangé mon voisin avec le bruit que je faisais avec mon éventail. Je sais pas si t'as remarqué ça. Le mec devant, il arrêtait pas de se retourner. Ça faisait tic, 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 tic. J'étais là, il y a un vrai problème. Et en fait, je me faisais chier. Il faisait pas lire, il faisait pas vivre le texte, il faisait pas... Je sais pas, ça servait à rien, en fait. C'était un peu grossier. Alors, non, et puis surtout, il y avait un truc impardonnable. Ça se passe en 1990. Ils arrivent chez les gérantes, là, le papa, et ils allument la télé, et il y a la musique d'urgence. Et Urgence, ça a été créé en septembre 1994. Je suis désolée. Mais si tu commences à placer ton truc dans l'Amérique de 1990, tu te poses des questions ou tu fais pas n'importe quoi. Et du coup, ça montre juste quoi. Ils avaient envie de mettre des trucs fluo, de lui donner des bottes de cow-boy moches, et c'est tout, en fait.
Ouais, en plus, alors la nourrice. Elle est plate comme une limande, donc t'as du mal à croire que ça nourrisse. Par contre, la jeune fille, elle a d'énormes seins.
Elles sont pas très claires.
Tu comprends pas très bien.
Mais c'est parce qu'elle est censée ressembler à une bimbo Barbie, quoi. Mais en fait, je trouve ça assez insultant. C'est ce que j'ai eu peur de tout d'un coup, d'ailleurs, une heure avant le spectacle. Je me dis, ah, mais merde, c'est censé se passer aux États-Unis. J'espère que ça va pas être un truc un peu insultant sur l'Amérique débile. En fait, c'était un peu ça. Hein.
Ouais, on a gagné.
Donc voilà, donc on s'est barré. On va être honnête. Bon, après, tout le rang derrière nous. Ils se sont barrés avec nous. Bon, eux, à cause de la chaleur, mais ils se faisaient un peu chier aussi, ils nous l'ont dit.
Bon, ça me rappelait une fois à une représentation pour les Molières. J'étais avec une copine qui avait un mari très connu, donc on avait eu des places excellentes. On était au milieu de la salle, génial. Une horreur. C'était un Obalia, justement, qui était nul à chier. Et donc, à l'entracte.
Pour les Molières? Mais quand oui, mais la cérémonie des Molières?
Non. Il y a des soirées théâtrales où les gens qui votent pour les Molières.
Ah!
À cette époque-là, il se trouve que j'avais une carte pour voter, même si c'est pas moi qui votais, mais j'avais une carte. Donc on était là-bas.
Ma couille de ma mère.
Oui. Et au milieu du. Comment dire? À l'entracte, je regarde Mireille, je dis. Elle me dit, on se casse. Je dis, oui. On part, discrètement. Je pousse la porte du théâtre. Je me retourne. Oh! Il y avait une queue derrière nous, mais il y avait au moins 40 personnes derrière nous en train de se barrer aussi. Et là, c'est pareil, ils nous ont vu nous lever, pouf, ils sont levés directement.
Mais c'est rigolo, mais en fait, t'avais pas entendu qu'ils étaient en train de décider de partir. Mais moi j'entendais en fait, c'était en train de dire, ok, la prochaine interlude, on se barre. Et du coup, ouais, mais c'est comme la cerisette de Tchekhov qu'on avait vue à la Comédie Française à l'époque où c'était la mauvaise période de la Comédie Française, il y a 20 ans. Et on s'est enfui dans le foyer pendant la deuxième acte. Et on a croisé une bande de jeunes qui nous dit qu'ils aimaient pas le théâtre. Et on leur a dit non, non, mais ça c'était pas du théâtre, ça c'est du mauvais théâtre. Ne vous fiez pas à cette expérience. Enfin bon, tout ça pour dire que du coup on s'est barré. Et quand même, il fait 37 degrés ou 38 degrés à Avignon. On est sorti. La sortie est en plein soleil. Je te jure, j'ai eu une bouffée d'air frais dans la gueule. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce théâtre. Apparemment, c'était un problème de clim qu'ils ont réglé entre temps. Bon, tout ça pour dire qu'on s'est fait chier comme des rats morts. Ça a apparemment fait un gros succès, ce truc. Ça a plusieurs années. C'est une nouvelle distribution, mais ça a tourné beaucoup, notamment en France. Ça a eu des très bonnes critiques. Alors, peut-être que ce n'était pas le bon jour, peut-être que machin. Je ne peux en tout cas pas comprendre quel est l'intérêt de cette mise en scène. Pourquoi ça se passe au moment où ça se passe? Ça n'a aucun sens. Et en plus, moi, je croyais qu'on avait vu que la moitié du spectacle, mais en fait, non, on est resté...
Entre 45 et 50 minutes.
Entre 45 et 50 minutes, ouais. Donc, je pense que voilà, c'était censé durer une heure et quart. On ne peut pas vraiment dire qu'on a raté beaucoup.
On peut dire qu'on lui a laissé sa chance, mais il y a voilà. Un moment où...
Et entre-temps, on avait rencontré de jeunes gens qui faisaient un spectacle à 19h au même théâtre. Bon, du coup, on s'est dit, bon, bah, on rentre, puisqu'il était 17h. On se repose un peu et on ressort. Bon, déjà, on appelle le théâtre pour vérifier que c'est pas dans la même salle, pour savoir s'ils ont pas des problèmes de clim. On fait une sieste, donc bien entendu, incapable de se réveiller à 18h30. Donc finalement, on dit, bon bah tant pis pour les petits jeunes, on va aller voir ce qu'on est prévu de voir, c'est-à-dire vernissage de Vaclav Havel, que j'appelle Vaclav Havel dans ma tête, parce que quand j'étais petite, je croyais que c'était comme ça que ça s'écrivait. Donc on est d'accord, c'est l'ancien dirigeant...
C'est l'ancien premier ministre de...
De la République tchèque ou de... Mmh. De la République tchèque. Ok. Et donc aussi un écrivain, auteur de théâtre. Donc on est d'accord, il est spécialiste dans l'absurde.
Ouais.
Donc on va voir ce truc. Alors, bonne nouvelle, ça dure 55 minutes, c'est ce qu'on se dit. Bon, super. 20h40, parfait. On arrive.
Non, je vous raconte directement. La pièce commence. À un moment donné, j'en ai marre. Donc, je regarde discrètement mon téléphone pour voir ça fait combien de temps que c'est passé et quelle heure il s'est passé que 6 minutes. J'en ai déjà marre. Comme je sais qu'elle n'aime pas trop que je regarde mon téléphone pendant la pièce, je jette un coup d'œil sur elle pour voir si elle s'en est rendue compte. Et qu'est-ce que je vois ? Yael est en train de tricoter. Ça veut dire qu'elle en a eu marre avant moi.
J'ai tenu 3 minutes avant de sortir mon tricot. J'ai tenu 3 minutes et j'étais là. Je suis en train de faire un rejet absolument dangereux de cette pièce de théâtre. Je ne sors pas mon tricot, je vais péter un câble. Sachant que c'est un théâtre à moitié maudit. L'année dernière, on a vu un des pires spectacles de l'année, ou le pire spectacle de l'année. Probablement le pire spectacle de la décennie. Il s'appelle L'enseignement de l'ignorance.
Pardon.
Ma mère est toujours malade et moi ça va venir. Demain c'est moi qui tousse dans le podcast. Et on avait vu Shraz aussi, qui est un super comique dont on a parlé hier. Au Pandora aussi, mais sinon. Alors là, le truc. Ah, mais en plus, un des trucs du Pandora, c'est qu'il y a une super clim, logiquement, on a froid. Et là, en plus, je sais pas ce qui se passait, il faisait hyper chaud. Et donc, en gros, donc c'est censé être absurde avec la Babel, sauf que, en gros, les acteurs surjouaient l'absurde. Et c'est rigolo parce qu'on a croisé le David qui était dans Un couple presque parfait tout à l'heure, et on lui a raconté ça. Et le premier, avant même qu'on commence à lui décrire le truc, il dit bah oui, mais le principe de l'absurde, c'est qu'il faut le jouer en vrai, il faut le jouer réel. Si tu joues absurde dans l'absurde, ça n'a plus aucun sens. Et je dis, tu m'étonnes. Et là, alors, un des parties pré-absurdes, au-delà du fait que clairement ils essayaient de parler non, faux
c'est pas un
ou de pas jouer.
Cette femme est une contorsionniste, c'est évident. Non, là, donc elle n'a pas le choix.
Mais tous, ils parlaient comme ça.
Tempo rapide là.
Il attendait longtemps. C'était insupportable. Et du coup, au bout d'une minute. Et en fait, donc je commence à en avoir marre, donc je commence à regarder ma mère, je commence à rigoler deux, trois fois. Et donc, effectivement, la nana gigotait beaucoup, mais gigotait, genre, elle est debout, puis elle se penche, je peux pas le décrire, je sais pas.
Contorsionniste.
Et enfin, tu vois, elle balançait un peu, comme si elle était pas très stable, comme si elle titubait, c'était très étrange.
Elle a commencé par me dire, elle a fumé ou quoi?
C'est ça, je pensais qu'elle avait pris des drogues. Et donc, en gros, à un moment, je commence à rigoler. Et je commence à rigoler. Et je suis prise d'un fou rire. Mais d'un fou rire où je pleurais. Et où j'essayais d'étouffer mes sourires. Donc j'étais... C'est voilà. Et à ce moment-là, ma mère a eu le malheur de me dire quelque chose qui a empiré les choses. Et je crois
que... C'est là que j'ai dit qu'elle était contorsionniste.
C'est quand le comédien a dit... J'ai fait des clames sans gratin. Ça m'attache. Ça m'arrache. Et j'ai dit, mais merde, faut que je sorte. Je peux pas rester dans cette salle. Heureusement, j'étais au fond. Hein. Je pensais pas permis de tricoter si les gens avaient pu me voir tricoter. Mais en plus, c'est quand on est rentré, parce qu'on s'était fait avoir avec l'enseignement de l'ignorance, on était tout au bout de la salle, loin de la porte. Là, tu m'as, le premier truc que tu m'as dit, c'est, on se met à côté de la porte au cas où. Et heureusement, putain, si on avait été à l'autre bout de la salle, ça aurait été la fin du monde. Et on est sorti et j'ai dû rester dans le sas de porte battante entre la salle et le hall du théâtre, parce que je me sentais pas de sortir et d'être explosée de rire devant tout le monde. Donc il a fallu quand même que je reprenne mes esprits, et pour ça il a fallu que je continue à rigoler pendant au moins 45 secondes. Et quand je suis sortie, j'ai fait semblant du fait que, parce qu'il y avait effectivement un coup de chaleur en plus, c'est le moment où j'ai commencé à éclater de rire, c'est que tu me regardes, tu me fais, il fait chaud en plus. Et là, je réalise que nos deux épaules sont collées l'une à l'autre. Et je les ai décollées et je me suis essuyé l'épaule et ça m'a fait mourir de rire. Et c'est là que je ne pouvais plus m'arrêter. Et il y avait un côté assez hallucinant du fait que j'avais complètement réussi en l'espace de 10 minutes à déshumaniser les acteurs, les comédiens sur scène. J'arrivais pas à me mettre à leur place, j'avais juste l'impression que c'était des parasites qui interféraient avec mon bien-être mental.
C'est ça, c'est exactement ça.
Et donc, du coup,
éliminé.
Bah, du coup, non, mais c'est vrai que c'est terrible parce que tu dis que c'est un job, tu vois, c'est la générale, ils ont peut-être plein de raisons d'être comme ça, mais c'est juste qu'il y a un moment, quand t'es dans cet état-là, tu peux juste sortir, quoi. Et donc, on est sorti, et donc, en tout, on a tenu 14 minutes. C'est quand même magnifique.
Et avec les 50 minutes de l'autre, ça fait un spectacle.
Mais bon, quand tu parles de là, on t'entend pas, parce qu'elle était partie se moucher. Mais oui, c'est ça. Donc en fait, quand je dis 5 spectacles, c'est pas complètement vrai, c'était plus 4. Donc voilà, donc on a vu ça, et là, je me suis dit, oh merde. Bon, déjà, on s'est levé pour cette putain de merde, pardon, mais quand même. Mais surtout, on avait peur d'avoir pas beaucoup de temps pour aller au prochain spectacle, mais vu qu'il était à 22h35, et que du coup, on est sorti à 21h pétante de l'autre, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de temps. Du coup, bah, malheureusement, on a été obligé de retourner manger une glace. On n'a pas eu le choix, et on a essayé des gaufres aussi.
Avec des gaufres, alors sans gluten, non.
Voilà, on a voulu les aiguilles. On a eu des gaufres au sarrasin, et donc sans gluten, et en fait, le sarrasin et la gaufre, non, on ne vous conseille pas. Et donc on attendait le dernier spectacle de la journée qui, alors ironiquement, donc on avait croisé le mec qui avait joué dans Irrésistible dans la rue, qui nous a dit qu'il jouait dans ce truc là à 22h30 avec sa partenaire d'Irrésistible. Or la merveilleuse comédienne qu'on avait vue à 13h35 a dit la même chose, a dit ce soir à 22h35 je joue dans le même truc. Donc on s'est dit ok, s'il y a 3 personnes qu'on a déjà vues, qu'on a déjà trouvé bon ailleurs, on va aller le voir. Et donc on a vu un spectacle qui s'appelle Cabaret ta mère. Donc, maman. Alors, il faut savoir que c'est un truc qui vient d'être créé. Ils l'ont joué 3 fois avant. Restait la 4e et c'était la générale.
Mais comme tu as dit, c'est work in progress. Enfin, le fond, très bien. Plein d'idées très intéressantes. Mais moi, j'ai trouvé que c'était foutraque. C'était pas fini.
Déjà, c'est comme une soirée de cabaret. Donc déjà, il y a un côté, on fait des numéros, des trucs, des machins. Donc déjà, il y a un truc de base, de foutoir. Pour que ça marche, il faut que ce soit hyper réglé, il faut que ce soit hyper efficace.
Et en lisant leur fiche, je ne crois pas qu'ils aient un metteur en scène, et ça se sent vraiment.
Voilà, donc il leur faut un metteur en scène, il leur faut travailler le truc. Mais par contre, le principe, c'est que c'est faire des numéros, des cabarets, sketchs, et des choses un peu très différentes les unes des autres. Il y a des choses qui sont proches de la poésie, de la danse, de l'humour, du sketch. Enfin, on est vraiment sur des choses très différentes. Mais en gros, le truc de base, c'est un truc féministe. Hein. C'est un truc pour dénoncer la misogynie ambiante et le sexisme. Et la misogynie et le sexisme dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi...
Il y a un truc très drôle, c'est que de temps en temps, il y a des saints.
Oui, ça te tapait, je me demandais, ça s'appelle les nénés philosophes.
Donc c'est comme des marionnettes, mais en fait c'est une poitrine avec chaque sein, il y a un personnage plus ou moins
dessiné. Il y en a, il y a une moustache et des lunettes, et l'autre il y a un autre truc dessus, et ils font des blagues. Et donc les blagues, c'est par exemple la liste des femmes qui ont une grande carrière et qui n'ont jamais dû à se justifier sur leur choix de vie et de famille. Et là il y a un gros silence et ils font...
Moi ce que j'aimais, c'est... Tu connais l'histoire de la fille qui a jamais été harcelée dans le métro ? Ça n'existe pas.
Donc voilà, et en fait, en gros, à chaque fois, la blague, c'est qu'il y a un gros silence. Et donc, le troisième, c'est pas mal, c'est l'homme qui porte que du rose et dont on n'a jamais remis en question la virilité. Voilà. Donc, il y avait plein de choses assez mordantes et assez fortes là-dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un work in progress. Mais je pense qu'en fait, il faut conseiller aux gens d'aller le voir, parce que plus les gens vont aller le voir, plus ils vont avoir du matériel pour faire un bon spectacle, et c'est un spectacle dont on a tous besoin. Donc moi, j'avoue que là, pour le coup, j'ai envie de les soutenir, et j'ai envie de...
Ah, moi, j'ai appris un truc quand même dans le spectacle.
Ah, t'as appris un truc, c'était quoi ?
Que Barbie, c'était un truc féministe.
Ah oui, effectivement, il y a tout un truc sur la création de Barbie, et ils disent un truc assez passionnant, qu'en fait, au départ, la créatrice de Barbie, l'américaine qui a créé Barbie en 1959, elle l'a créée parce que... Elle regardait sa petite fille jouer avec un bébé, un poupon, et elle voulait créer un jouet où elle puisse se projeter en tant que femme en dehors de la maternité. Et du coup, elle a créé Barbie.
Ils ont expliqué que Barbie n'avait jamais été mariée, Barbie avait fait des tas de professions.
Ouais, elle était mécanicienne, pilote de chasse, présidente des États-Unis en 1981.
Voilà, c'était en fait une féministe, ce qu'on avait pas. Que le poupon, c'était sa plastique.
Oui, c'est ça. Et on a tendance à juger les femmes belles, de toute façon. Et juger les blondes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous autres femmes, on a du coup entendu... Enfin, il y a une espèce de double standard. Enfin bon, c'était vraiment... Il y avait plein de choses bien. Faut laisser du temps au spectacle de Murière. Mais voilà. Et ensuite, on est rentrés. Ma mère m'a dit qu'elle allait immédiatement se coucher. Et au bout de 10 minutes, elle a ressorti la salade et a décidé de manger pour changer. Et donc, du coup, elle mange depuis tout à l'heure. Et on s'est dit, on va faire un petit podcast. Bon, je crois que cette journée restera pour toujours la journée de Vaclav Havel. Non mais ah non, et la blague, c'est on sort de Cabaret ta mère et là je croise, on croise un des mecs du spectacle avec un t-shirt avec l'affiche. J'avoue que j'ai eu très très peur qu'ils me reconnaissent.
Vu où on était, risquait pas de te reconnaître.
Oui, mais tu sais, moi je suis un peu parano.
Mais moi, il aurait pu me reconnaître que je lui parlais hier en disant que j'allais venir ce soir et que j'en entendais grand bien et que.
C'est vrai.
J'espère que vous allez être géniaux parce que moi je viens et tout.
Ah oui, donc il aurait pu te reconnaître, dire alors, vous êtes venu et... Qu'est-ce qu'on aurait dit?
Bah, j'aurais dit oui. Oh, bah, moi tu me connais, j'aurais dit oui. Et alors, et ben alors ça m'a pas plu.
Et on s'est parlé au bout de 10 minutes parce que.
Franchement, entre Fayel qui est quand même hypocrite, a dit au gars, s'ils m'ont entendu sortir, vous dites bien que c'est parce qu'ils sont trop chauds.
Mais non, mais je trouve ça juste dur. C'est leur général, ils viennent de commencer, ils sont dans cette galère pendant tout le mois. Ça sert à rien de leur dire que c'est nul leur pièce.
Bah si, comme ça ils sont au courant que pourquoi ils vont pas voir de public.
Ouais, mais enfin, je sais pas.
Ils peuvent rentrer chez eux plus tôt, partir en vacances.
Je sais pas.
Il faut savoir que la moitié des gens d'Avignon plie bagage au bout d'une semaine.
C'est vrai ? C'est vrai ?
Bah oui, parce que les... Je veux dire, ils ont payé la salle une fortune, ils ont payé leur location une fortune, ils payent le régisseur une fortune, s'il n'y a personne, rapidement, ça leur coûte de plus en plus. Il faut continuer à manger, à machin, machin, et donc... Il y a à peu près la moitié des fesses sur les 1000. Mais c'est-à-dire que sur 1500, il y en a 750 qui se barrent, tu le vois pas ?
Oui, c'est ça. 750. C'est clair.
Ce qui est une de mes fiertés, c'est que la moyenne générale du public à Avignon, c'est 13 personnes par salle. Et moi, j'avais toujours 13 personnes en moyenne. Donc, je faisais pas fortune, mais j'ai jamais plié bagage.
Bon, bah, merci maman pour. Voilà, donc demain, nous nous retrouvons. Toi, tu seras en bonne santé et moi, je serai en train de tousser pour tout le podcast.
On espère.
En tout cas,
demain,
venez à Avignon.
Demain, 5 spectacles encore.
Ouais.
Et on commence par celui qu'on veut voir aujourd'hui. T'as reçu un mail pour te dire que...
Non, mais c'est toi qui as les mails, maman.
Non, tu as donné les...
Ah oui, c'est vrai. Bah non, mais je pense que... Non, c'est pour le... C'est pas pour la place qu'ils m'ont donné le mail ?
Si, pour la place pour aller voir demain.
Ah, c'est intéressant. Oh, bah, de toute façon, ils vont pas nous faire chier. On va venir et on va leur dire on veut une place. Allez, hop. Sinon, ce sera l'Arlésienne. On essaiera tous les matins jusqu'à
alors, demain, on a ça à voir.
Ma comédie française. On va voir les... Pâtissière, parce que ça va changer. Ensuite, on va voir un truc sur le chocolat.
À 15h30. Ensuite, on va voir une pièce avec Marie-Christine Barrault et d'autres, mais surtout Marie-Christine Barrault à 17h. Et après, à 20h, je ne sais plus ce qu'on va revoir, un autre dernier truc à 20h, mais je ne sais pas ce que c'est.
En tout cas, on a bien rempli notre temps. Allez, bon spectacle d'ici là. Parce que généralement, je dis bonne série d'ici là, mais soyons clairs, hein, là, on parle que théâtre. Donc, bon spectacle d'ici la prochaine, c'est-à-dire demain.
Au revoir.